De la parole. Alors avant de lire les textes, je vous invite à la prière avec moi. Seigneur Jésus, nous voulons nous plonger dans les Écritures saintes afin de te connaître mieux et en te connaissant mieux, de nous découvrir, nous, en toi, qui nous sommes à tes yeux, et vivre de ta liberté, de ton pardon, pour être dans le monde des arbres de vie qui portent un fruit délicieux pour ceux qui nous entourent. Et Seigneur, déjà, manifester maintenant l'espérance que nous avons pour demain en toi. Merci de conduire ce temps par ton esprit. Amen. Je vous emmène dans plusieurs lectures ce matin. La première est une lecture bien connue, je pense, de la plupart d'entre vous. Il s'agit du psaume 139. Psaume 139. Psaume de David. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi, tu es au courant de ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais tout ce que je vais dire. Et derrière moi, devant moi, tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà de la mer, même là, ta main me guide, droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi, le jour se fasse nuit. Mais pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui m'as créé, qui a créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que je réalise est prodigieux. Ce que tu réalises, pardon, est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais et dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi. Sans qu'aucune d'elles, pourtant, n'ait encore existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il y en aurait plus que des grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Mon Dieu, si tu tuais les méchants, si tu chassais loin de moi ces meurtriers, ils parlent de toi pour comploter. Ils prononcent ton nom pour mentir. Seigneur, je déteste les personnes qui te détestent. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Oui, je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Mets-moi à l'épreuve et reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux. Et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Première lecture. Nous allons faire une deuxième lecture dans l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 4. Épître aux Hébreux, chapitre 4. Je laisse un peu de temps pour ceux qui suivent sur les Bibles ou les smartphones. Hébreux 4, versets 12 à 15. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle peut séparer l'âme de l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu, à ses yeux. Tout est nu, découvert. Et c'est à lui que nous devons rendre des comptes. Tenons donc fermement la foi que nous avons proclamée. Nous avons en effet un grand prêtre, un souverain, qui n'est parvenu jusque dans la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. On n'a pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous, de compatir à nos faiblesses, au grand contraire. Nous avons un grand prêtre qui a été mis à l'épreuve comme nous, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Et je voulais lire un dernier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Jean 10, verset 11 et suivant. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui ne travaille que pour l'argent n'est pas vraiment le berger. Les moutons ne lui appartiennent pas, alors il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Et le loup se jette sur les moutons et disperse le troupeau. Cet homme ne travaille que pour l'argent et ne se soucie pas des moutons. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. Et même, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui n'appartiennent pas à cet enclos. Je dois aussi les conduire. Ils écouteront ma voix et ils deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Et c'est pour cette raison que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne prend ma vie. Je la donne volontairement. J'ai autorité pour la donner et j'ai autorité pour la recevoir de nouveau. Cela correspond au commandement que mon Père m'a donné. Je m'arrête là pour la lecture de la Bible. Un jour, j'ai demandé à un ami depuis quand il connaissait Jésus. Il m'a dit, ça s'est passé tel jour, à telle heure, j'allais ici et là, boum, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, j'ai compris. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré et tout. Et je lui ai dit ensuite, depuis quand tu connais Dieu? Ouais, enfant de chrétien, il s'est arrêté, il a réfléchi, il a dit, toujours. J'ai jamais pas cru en Dieu. J'ai toujours su que Dieu existait. Et parfois, ce n'est pas été rare que je croise des enfants chrétiens comme ça, ou des enfants de chrétiens, ou des enfants nés dans le baigné dans le christianisme depuis toujours, presque regretter ça, de se dire, j'aurais bien aimé vivre ce que c'est que de passer de pas connaître rien à connaître. Parce que même ceux qui, dans l'Église, ont grandi et ont vécu ces expériences de conversion forte, ont toujours su que Dieu existait, ont toujours prié, ont toujours eu cette conscience-là. Et ce matin, j'aimerais justement parler de cette mystérieuse présence de Dieu dans nos vies. Voyez, le psaume 139 nous plonge, avec David qui a écrit ce psaume, dans ce mystère de « tu vois tout, tu sais tout, tu anticipes tout, tu... » Ma vie se déroule sous tes yeux et il n'y a pas un moment, pas un virage que je prends qui te surprend, Seigneur. Comment est-ce qu'on vit cette présence? Comment est-ce qu'on vit en cette présence? Un jour où on montait visiter Notre-Dame de la Garde avec Camille et les enfants à Marseille, on était dans ces grands escaliers qui montent jusqu'à l'église. Et là, un gamin qui devait avoir 4-5 ans faisait des bêtises apparemment et sa maman le reprend fermement en disant « Attention, le petit Jésus, il te voit. » Le petit Jésus, il te voit. Quoi. Et c'est rigolo parce que, au fond, c'est vrai. Alors, je ne qualifierais pas Jésus de petit. Mais c'est vrai qu'il voit tout. Mais sa maman dit « Attention, il te voit. » Sous-entendu, si tu fais des bêtises, et que tu es vu, il y aura des conséquences. Et parfois, on peut avoir été élevé dans cette conscience ou cette façon de vivre sous le regard de Dieu, de « Attention, Dieu voit tout. » Sous-entendu, il y aura des conséquences. Mais quand on lit le psaume 139, oui, il ne dit pas autre chose, ce psaume. Tu vois tout, tu sais tout. Mais David ne semble pas du tout vivre ça comme pénible ou douloureux ou culpabilisant ou « Malheur à moi, je ne peux pas me planquer du regard du Seigneur pour faire ce que j'ai envie de faire. » Mais bien plutôt, il le vit comme quelque chose de réjouissant. Ah, tu es là. Et je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, vous. Chacun d'entre vous. Comment vous sentez sur votre nuque le regard permanent du Seigneur, le regard perforant du Seigneur qui traverse tout mon être? Vous avez vu dans l'Épître aux Hébreux, on lit la parole de Dieu est capable de discerner entre l'âme et l'esprit. C'est où la frontière entre l'âme et l'esprit? Entre l'os et la moelle. C'est bien collé quand même, je pense, tout ça. Cette idée, en fait, d'être capable d'aller distinguer entre des choses, nous, on est incapable de faire la distinction, quoi. Entre la colère et la jalousie ou... Est-ce que c'est un sentiment de peur ou de répulsion que... Des fois, on ne sait pas trop distinguer, comprendre, écouter ce que nous, on vit au fond de nous-mêmes. Ou des fois, on n'est pas capable de comprendre pourquoi on a telle ou telle réaction, telle attitude, parce que ça va chercher à des trucs trop profonds en nous. On avait parlé de cette spéléologie du cœur qu'on peut faire avec la corde de la grâce. L'esprit, lui... Il distingue, il fait le tri, il passe au crible, il arrive à tout, des choses que moi-même, je n'ai pas accès. Comment est-ce qu'on vit cette présence de Dieu? Je me souviens être passé par plusieurs stades dans ma vie de chrétien. Quand j'étais petit, c'était un peu pénible, des fois, de ne pas pouvoir se planquer, justement. On ne pouvait pas y échapper. Et puis, on a une conscience un peu aiguë de faire le tri entre quand on fait une bêtise, quand on est en train d'échapper au regard de ses parents, mais mince, je peux échapper au regard de mes parents, mais je ne peux pas échapper au regard de Dieu. Et avec le temps, de faire un peu abstraction pour vivre ma vie. Et plus tard, d'y revenir. Et je dis d'y revenir parce que, lui, il n'est jamais parti. Mais c'est l'attention que j'y accordais, elle, n'était pas du tout la même. La fille de Charles Nicolas, Lydie, un jour, me dit, à un moment, j'ai fait un rêve où j'ai essayé d'imaginer que Dieu n'existait pas. Et j'ai ressenti une angoisse. Je me suis dit, pourquoi ? Elle me dit parce qu'il n'y avait plus personne là-haut. Il n'y a plus personne. qui veillait sur moi. Et c'était la panique, quoi. Et heureusement, c'était... Enfin, j'ai juste fait un exercice de pensée, mais quel sentiment de vide. Et l'autre jour, je visitais Liliane Chou, dont le téléphone, une fois de plus, ne marchait plus. Et elle me dit, j'étais là, je ne pouvais plus appeler personne. Et alors, je me dis, mais Dieu, il n'y a pas besoin de téléphone pour l'appeler. Et elle se met à prier et elle dit, et donc je priais, priais, priais. Je lui parlais tout le temps. Que fait-on de cette présence de Dieu en nous? Comment vit-on nos journées avec cette présence de Dieu en nous? Oui, à la fois, cet Esprit de Dieu sonde tout ce qu'il y a en vous. Il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il serait le premier à être capable à faire tomber vos illusions, nos illusions, je peux m'impliquer largement là-dedans, nos illusions, nos fausses excuses, nos prétentions. Et tous les trucs qu'on s'est construits pour être bien, d'un claquement de doigts, ils pourraient nous projeter une image de nous-mêmes qui peut-être nous désarçonnerait un peu. Et en même temps, il est d'une bienveillance et d'une fidélité incroyable. Nous pouvons chercher cette présence. Nous pouvons dialoguer avec cette présence. Il n'aura jamais un plaisir cruel à nous montrer peut-être ce qu'on n'arrive pas à assumer, ce qu'on n'arrive pas à voir de nous-mêmes, pour nous faire souffrir ou pour nous rabaisser. Mais il aura le courage, la justesse et la bienveillance authentique, dirais-je, d'aller nous amener à constater ce que nous devons apprendre maintenant de nous-mêmes. Et quoi que nous y découvrions, quoi que nous ressentions, lui nous aime d'un amour éternel. Jésus l'a dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Je les connais. Il a dit, hein, je les connais. Je les connais. Ce que nous découvrons sur nous-mêmes, ce que nous constatons parfois à travers nos actions, nos décisions, nos fuites, il le sait déjà. Et nous ne pouvons pas décevoir Dieu. Nous ne pouvons pas le lasser. Mais c'est une expérience étrange que de chercher à se tenir dans cette présence qui nous sonde et qui nous connaît. Qui ne nous fait pas des faux compliments pour nous faire plaisir, comme parfois on cherche un compliment au dessin de notre enfant ou au pull de la grand-mère. Ce n'est pas son genre. Et en même temps, il a une bienveillance envers nous et une fidélité qui dépasse ce qu'on peut croire. Donc chercher cette présence, s'habituer à cette présence, en faire quelque chose, ce sera un exercice pour votre vie de foi d'une grande fécondité. Et vous allez apprendre que vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Profondément. Vous pourrez chercher tout le temps ce regard. Les paroles sont là. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. Nous l'avons dit, lu lors du baptême de Jésus. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes baptisés en Christ. C'est comme ça que Dieu le Père vous voit. Là, c'est la première chose que je voulais vous partager ce matin. On a une deuxième. Soyons honnêtes, nous appartenons à une famille chrétienne, l'Église réformée évangélique, et Comme tous les courants chrétiens, on aimerait bien pouvoir dire « nous, nous sommes fondés sur l'Écriture et sur l'Écriture seule ». C'est jamais vrai. Nous avons toujours une culture d'Église, nous avons toujours des traditions humaines que nous maintenons par choix, parfois, par identité jalousement gardée parfois, bref. Et chez les réformés, globalement, toute cette expérience dont je viens de vous parler, de cette présence de Dieu, parfois le dialogue qu'on peut avoir avec Dieu, on n'en parle pas aux autres. Si vous avez grandi dans l'Église réformée, je suis certain que vous avez dans votre tête cette grand-mère, souvent une grand-mère, parfois c'est un grand-père, mais souvent une grand-mère. Cette grand-mère, dites, ah mais elle avait une foi, elle ne m'en parlait pas. Je voyais sa Bible, je ne la voyais pas lire sa Bible, mais il y avait sa Bible, tu vois. Mais elle transpirait d'un truc. Mais qu'est-ce qu'elle vous a transmis intentionnellement ? Souvent pas grand-chose. Juste cette marque, ce témoignage. Là, on est typiquement en terre réformée. Cette expérience, cette pudeur sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous voyez ? Cette relation à Dieu. Cette connexion. Qu'est-ce que je fais de ce regard de Dieu ? Qu'est-ce que je fais de ce dialogue intérieur avec Dieu ? Comment est-ce que Dieu me parle ? Alors que vous allez chez les évangéliques, et pour un bon réformé, ces évangéliques sont d'une impudicité à parler comme ça de Dieu, puis il n'y en a que pour eux, moi je, et souvent ça trouble les réformés. Et soyons honnêtes, dans notre Église, on est un peu mélangé avec les deux. Hein. Tant de prières spontanées, le réformé, ah, l'évangélique, ah enfin. Il y a une chose, je pense, que nous, les réformés, devons apprendre des évangéliques, qui est fondamentale. Partager cette expérience intérieure avec Dieu. C'est introduire nos enfants dans la présence du Seigneur. Mes braves réformés, dont je fais partie, mais que j'aime, moi, je n'ai pas grandi dans l'Église réformée, donc j'ai un autre parcours. Je les vois là, face à la jungle de la vie spirituelle. Ils ont tous leurs machettes et ils taillent leur chemin. Ils sont tous à 1,50 m d'écart les uns des autres. Et ils taillent autant de chemin qu'il y a de réformés. Et ils ont tous l'impression que tout ce qu'ils expérimentent et qu'ils cherchent et qu'ils découvrent, ils sont les seuls à le vivre. Et je discute avec l'un d'entre eux qui me dit, tu sais, moi, je ne prie pas vraiment. Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je parle à Dieu. Ah. Et je discute avec un autre qui me dit, tu sais, moi, je ne sais pas prier. Ah bon ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah, il est là, tu vois, alors je lui parle. Ah, d'accord. Et je discute encore avec un autre dans cette église. Et à tous, je leur ai dit, mais c'est ça, prier. Ah bon ? Alors, je sais prier ? Ben oui. Puisque prier, c'est parler à Dieu. Et si au lieu de creuser chacun leur chemin dans la jungle à 1,50 m d'écart pour aller vers le même endroit, ils s'étaient rassemblés. S'ils avaient osé partager leur expérience intérieure à quelqu'un d'autre que le pasteur. S'ils avaient osé poser la question un jour à un autre chrétien, comment est-ce que toi, tu sens que Dieu te parle ? Ben, au lieu de creuser chacun un chemin à 1,50 m de distance, ils se rassembleraient tous au même point et ils avanceraient tous ensemble vachement plus vite. Vous savez, c'est un peu comme ces jeunes couples qui se marient. Ils sont uniques. Tout sera différent avec eux. Puis ils se retrouvent au bout de 10 ans au groupe des vieux jeunes adultes et ils parlent de l'éducation des gamins, ils parlent de... Et subitement, elles disent « Ah, toi aussi ? Tu passes par là ? Ah, ben toi aussi ?» Si vous savez le nombre de choses en commun que tous les couples de la Terre ont. Et pourquoi en serait-il différent autrement avec la relation à Dieu. C'est le même Dieu. Quelle richesse! Et combien, en fait, nous rendons cette expérience féconde en osant partager ce qu'il y a au fond de nous. Qu'est-ce que nous vivons avec Dieu? Comment est-ce que Dieu me parle? Comment est-ce que je bataille des fois entre « Oui, Seigneur, mes pensées », et puis lui, il voudrait que j'aille dans un autre sens, ou lui, il est bien en train de me montrer que ça. Et qu'est-ce que j'en fais? Et la tentation, et l'épreuve, et cette difficulté que j'ai à aller prier parfois. Et cette façon où des fois, je tombe aléatoirement sur un verset biblique qui me percute en plein fouet. Et toutes ces choses, nous avons besoin de nous y exhorter, de nous y encourager. Non. Oui, votre expérience avec Dieu est unique parce qu'il n'y a que vous qui êtes vous. Toutes les autres personnalités sont prises, assumez la vôtre. Et en même temps, c'est le même Dieu que nous avons tous. Et en même temps, cette relation à Dieu, nous avons tous des tas de choses à nous apprendre les uns des autres et tous des expériences communes à partager pour nous fortifier les uns les autres. Mais peut-être pour certains d'entre vous, c'est trop de difficultés, trop de timidité, trop de pudeur. Une culture apprise qui sera peut-être compliquée à traverser. Sachez ceci, nos enfants nous imitent beaucoup plus qu'ils ne nous écoutent. Vous savez, on dit, hein, « Dis-moi comment tu pries, je devinerai de quelle église tu es. » C'est bien qu'on apprend à prier d'une façon, en imitant, en nous imprégnant de modèles et d'expériences. Et vous verrez que de votre transmission de la foi, ce que vous avez pu transmettre à vos enfants ou ce que vous êtes en train de transmettre à vos enfants, une large mesure dépend des modèles que vous avez eus. Est-ce que vos parents ont lu la Bible avec vous? Ce sera facile de la lire avec eux. Est-ce que vos parents ont prié avec vous? Ce sera facile de prier avec eux. Est-ce que vos parents vous ont emmené à l'église régulièrement? Ce sera facile d'emmener régulièrement vos enfants à l'église. Mais s'il y a des choses que vous voulez vivre, que vos parents n'ont pas vécues avec vous, je ne sais pas, un culte en commun, un culte en famille, rassembler toute la famille autour de la parole, autour d'un cantique, si vos parents ne vous l'ont pas transmis, ça va être difficile de tracer un nouveau chemin. Mais si vous y parvenez, vos enfants, ils auront un modèle à transmettre. Un modèle à imiter quand eux seront des parents et auront quelque chose à vivre avec leurs enfants. Oui, nous avons à bâtir ensemble dans notre expérience de cette présence de Dieu bienveillante, non culpabilisante, mais qui nous libère avec ce discernement de l'esprit des choses qui nous enchaînent à ce monde. Oui, nous avons à en parler. Et même si c'est hésitant, et même si c'est tâtonnant, car eux aussi déjà, ils se questionnent et ils cherchent la présence de Dieu. Amen.